Hashtag, un autre regard sur le handicap.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Hashtag, l'émission qui donne la parole à des personnes en situation de handicap afin d'évoquer leur parcours de vie, leurs projets, leurs préoccupations et leur permettre de débattre sur des thématiques diverses qui les concernent. Et en juin dernier, nous avons évoqué le dispositif de reconnaissance des savoir-faire professionnels. Et donc pour cette reprise, pour cette rentrée, nous allons évoquer la formation de l'IME Pro. Et pour cela, avec moi, Anne Clémence, directrice de la communication au Clos du Nid. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour à tous. C'est reparti pour une année et je suis ravie de te retrouver. Thomas, c'est ravi que ce soit toi qui présente l'émission. C'est une première puisque d'habitude c'est Ludo et aujourd'hui c'est toi. Donc super, il va y avoir du changement pour cette rentrée.
C'est ça, je te vois tout bronzé. Tu as dû passer un bel été.
Un été très ensoleillé. Voilà, je suis partie à la montagne. C'était chouette. Et on revient en forme pour cette rentrée.
Avec nous donc également, avec Anne Clémence, nous avons Marie-Noël Pépin, éducatrice technique spécialisée sur l'atelier entretien des locaux blanchisserie. Bonjour Marie-Noël.
Bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Ça va, merci.
Servant Caruana, éducateur technique spécialisé sur l'atelier Espace Vert. Bonjour Servant.
Bonjour à tous.
Pareil, vous avez passé un bel été ?
Un très bel été.
Et avec nous, toujours autour de la table, Dorian. Bonjour Dorian.
Bonjour à tous.
Vous êtes accompagné au CESAD et vous suivez une formation CAPA métier agricole au CFA de Marvejols. Vous êtes en cette rentrée en deuxième année pour passer votre diplôme en juin.
C'est ça.
Et la dernière personne autour de la table, c'est Kim. Bonjour Kim.
Bonjour à tous.
Vous étiez au Galon l'année dernière et vous avez eu votre titre de professionnel agent de service médico-social. On va parler de vos projets pour cette nouvelle année.
Oui.
Allez, c'est parti, on commence. Et moi, j'ai une première question. J'ai parlé de l'IME Pro dans cette introduction. Marie-Noël ou Servant, pour commencer, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est un IME Pro.
Un IME Pro, on accompagne des jeunes qui ont entre 14 et 20 ans. Et on vient, nous, les évaluer sur tout ce qui est professionnel. On va venir les évaluer pour voir s'ils peuvent travailler en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Et nous, notre rôle, en tout cas sur la partie professionnelle, ça va être d'accompagner leur projet de travail, en fait, et voir qu'est-ce qui leur est accessible, quels sont leurs rêves, leurs envies, qu'est-ce qui leur est accessible. Et ensuite, on va les aider à atteindre cet objectif à travers voilà, des réunions où on fait ce qu'on appelle des projets individuels d'accompagnement. Le jeune est au cœur de ce dispositif avec sa famille. Et voilà, c'est la construction d'un projet de vie, d'un projet de vie professionnel.
Alors, pour compléter Marie-Noël, alors déjà, tu sais, moi je suis là pour les acronymes, parce que, et en plus, on n'a pas présenté Julie, qui il ne parle pas aujourd'hui, qui était ma stagiaire durant tout l'été, qui a été la stagiaire que j'ai eue du BTS Communication de Notre-Dame et qui va rattaquer aujourd'hui aussi sa deuxième année de BTS. Et lorsqu'elle écoutait nos émissions, elle trouvait qu'on utilisait beaucoup d'acronymes. Pourtant, je fais très attention de chaque fois bien les expliciter. Mais on va rattaquer cette rentrée en étant
oui,
un bon élève.
On va prendre
donc,
la base.
L'IME professionnel, donc IME pour Institut Médico-Éducatif, et le Clos du Nid a la particularité d'avoir un IME, avoir deux sites. Un IME qui accueille des enfants de la maternelle, voilà, à partir de 5 ans, voilà. Et un IME professionnel pour accueillir des jeunes à partir de 14 ans, à caractère, dont le caractère est de professionnaliser ces jeunes-là. C'est-à-dire de les accompagner en termes de formation et potentiellement plus tard de professionnalisation, que cette professionnalisation soit dans un cadre du milieu adapté ou du milieu ordinaire. Et comme on a pu le dire dans plusieurs émissions auparavant, la volonté vraiment de notre président, le président Blanc, et de notre directeur général, c'est vraiment les personnes que l'on accompagne, de les amener vers toujours plus de diplomation, de formation, de professionnalisation chaque fois que c'est possible, et l'IME Pro est la structure qui est là justement pour répondre à cet objectif auprès des jeunes de 14 ans, de 14 à 18, 20 globalement, qu'on accompagne. Voilà, donc c'est vraiment la formation et la professionnalisation.
Ça existe depuis combien de temps? Il y a toujours eu des... Parce que moi, je connaissais le terme IME, mais pas le, derrière le IME Pro, mais ça existe depuis longtemps, alors même en France, mais aussi particulièrement en Lozère.
Oh oui, ça c'est des structurations qui existent un petit peu partout et avec cette structure. Après, chacun a un petit peu sa structuration. On a vraiment deux sites séparés, d'autres non. C'est les organisations qui varient un peu, mais en tout cas, l'IME, certains n'ont pas. Voilà, certains parlent d'IME globalement pour accompagner les jeunes de 5 à 18 ans. Et nous, en Lozère, on a vraiment spécifié le côté pro sur ce site du Galion pour vraiment accentuer cette volonté vraiment de formation et de professionnaliser les jeunes.
Et donc, je reviens vers vous, Servant. Vous faites quoi, vous? Enfin, quel est votre rôle, justement? Là, on vient d'avoir un peu la définition globale d'un IME Pro, mais concrètement, quelles sont vos missions au sein de l'IME Pro?
Alors moi, du coup, je travaille sur l'atelier Espace Vert. J'accompagne les jeunes à l'insertion socio-professionnelle.
Alors déjà, je vous coupe assez, mais oui. On pourrait déjà expliquer que du coup, pour accompagner ces jeunes à la professionnalisation, on est l'IME a développé 4 ateliers de professionnalisation pour les accompagner. C'est pour ça que vous êtes à l'atelier 4 ou 5.
Alors, même 5. Depuis cette année, depuis la rentrée, on a 5 ateliers. Donc on a d'abord l'atelier prérequis. Donc là, on accueille des jeunes qui n'ont pas encore les prérequis pour intégrer un atelier. Donc ils passent par cet atelier pour travailler directement les fondamentaux. Ensuite, on a 3 ateliers communs, c'est-à-dire que 3 ateliers sont le même fonctionnement, donc l'atelier espace vert, l'atelier blanchisserie, entretien locaux et l'atelier cuisine service, qui eux, dans lequel je fais partie, et Marie-Noël d'ailleurs, on travaille nous plutôt sur tout ce qui est la formation des jeunes, sur l'accompagnement autant au milieu protégé qu'au milieu ordinaire. Et on va travailler réellement sur tout ce qui est les apprentissages avec les référentiels métiers, sur des choses un peu plus spécifiques à nos supports. Et enfin, et le dernier atelier qui est l'atelier Projet Pro ouais. Qui là, c'est un accompagnement vraiment sur la sortie extérieure où l'encadrant technique s'occupe d'accompagner des jeunes, voilà, sur des projets un peu plus spécifiques, un peu plus individuels, avec un accompagnement, voilà, donc plus précis et sur la sortie, justement, qui prépare la sortie vers le milieu ordinaire et le milieu protégé également. Donc nous, nos missions, du coup, moi, sur l'atelier, c'est vraiment de travailler sur la partie technique en lien avec les espaces verts, plus tout ce qui est entretien des machines. Enfin, voilà, j'essaye. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la polyvalence autour de l'atelier et de l'activité. Donc ça regroupe aussi bien du travail paysager que le milieu agricole, que les espaces verts, que l'entretien du matériel. Et l'idée, c'est de vraiment d'accompagner le jeune sur son projet. Donc, quand il a un projet qui rentre dans cet atelier-là, du coup, nous, on va l'accompagner, faire en sorte d'aller jusqu'au bout de ce projet. Donc, ça va être d'abord de vérifier le projet par des stages, de rencontrer des partenaires, et ainsi de suite, de travailler en fonction des centres de formation, s'il y a une formation qualifiante à titre... Pour
un diplôme, ouais.
Voilà. Et sinon, d'accompagner sur des projets protégés avec les ESAT du secteur et au-delà, parce qu'on travaille avec des jeunes héroletés et de Lozère, et même de l'Aveyron également. Donc, après, c'est en fonction du projet familial et du projet du jeune.
Ouais, donc, il y a un rayonnement plus que départemental à ce niveau-là. Et donc, vous, Marie-Noël, c'est pas les espaces verts, c'est...
C'est l'entretien des locaux et la blanchisserie. Donc, effectivement, je travaille sur le même fonctionnement que Servant en me basant... J'ai cru comprendre que vous aviez déjà parlé des RSFP, reconnaissance des savoir-faire professionnels. On est en lien, en fait, avec le centre de formation, le centre AFPA, qui a créé des référentiels métiers où ils sont venus, en fait, détailler toutes les compétences de plusieurs métiers, en fait. Donc, moi, je suis partie du référentiel agent d'entretien des locaux et... agent blanchisseur, et je suis venue répertorier toutes les compétences dont les jeunes peuvent avoir besoin pour travailler, et je vais me servir de ce référentiel métier dans un premier temps pour leur faire découvrir qu'est-ce que l'entretien des locaux, qu'est-ce que la blanchisserie. Ensuite, ça me sert aussi de support de formation et un support aussi d'évaluation. Voilà. Et quand on sait qu'ils sont prêts, on peut aussi, la finalité, c'est aussi les inscrire sur ces compétences RSFP pour les valoriser autant eux que voilà, dans le cercle familial.
Mais pas que, là je vous coupe. Donc il y a les compétences RSFP, effectivement, mais aussi c'est pouvoir les accompagner, les aiguiller vers des formations plus professionnalisantes, comme ça a été le cas de Kim, par exemple, qui est parti sur un CAP. Quand... Donc on part après aussi... Oui. Sur des formations dans le milieu ordinaire.
C'est ça. C'est vrai qu'après, les jeunes qui vont avoir le potentiel d'accéder à la formation qualifiante, on est aussi référent de ces jeunes-là dans nos domaines de compétences respectifs. Et effectivement, Kim, ça fait plusieurs années que je l'accompagne dans son projet. Elle a su saisir sa chance et obtenir son titre professionnel. Avec les félicitations, donc c'est super.
Bah tiens, vous me faites une bonne transition, je vais donner la parole à Kim, donc je te laisse effectivement récupérer le micro, il y a tellement de monde dans le studio qu'il faut se partager les micros parfois. Justement, tu te souviens toi, au moment, je sais pas à quel moment tu es rentré dans ce parcours-là, mais on parle aussi parfois d'accompagnement à la carte, t'avais un choix, tu voulais faire... Tu te projetais sur qu'est-ce que tu voulais faire plus tard. Et voilà, tu peux un peu expliquer comment tu as commencé au tout début jusqu'à maintenant, arriver avec ton diplôme et prêt à sortir de ce dispositif.
Du coup, au début, quand je suis arrivée au Gagnon, c'était un peu compliqué pour moi parce que je disais que j'avais pas de compétences, que je voulais être en ESAT, que c'était là que je devais travailler. Or que pas du tout, j'ai vu que j'en avais des compétences, que j'ai pu montrer que j'en avais. Et au début, je savais pas que je voulais faire entretien des locaux, parce que c'était pas forcément quelque chose que j'aimais, que j'avais fait. Et du coup, j'ai fait des stages, et j'ai pu montrer que j'avais des compétences. Et après, on m'a dit que je pouvais faire une formation, et je l'ai fait.
Donc tu penses que c'est aussi grâce aux accompagnateurs autour qui ont réussi à te dire « Mais si, tu dis n'importe quoi, bien sûr que tu as les compétences, tu peux le faire, regarde, tu vas en stage. » Oui. C'est un peu comme ça que tu penses que ça a fonctionné ?
Oui, aussi, il y avait ma famille, il y avait moi. Au début, mes parents eux aussi me disaient que j'avais des compétences, mais c'est moi qui ne voulais pas montrer forcément parce que j'avais peur, vu que c'était compliqué quand je suis arrivée. Parce que au collège, ça a été... des années un peu trop compliquées pour moi. Du coup, je me renfermais sur ça.
Et tu manquais de confiance.
Oui.
Et du coup, les éducateurs t'ont aidé à gagner en confiance et à pouvoir te dire effectivement que tu pouvais faire quelque chose finalement, que tu savais faire des choses, que tu pouvais faire des choses.
Oui.
Ça, justement, le suivi... mental aussi, en tout cas le suivi médical, paramédical avec ces jeunes-là, ça, c'est une grande partie. C'est vrai qu'on n'a pas encore trop dit, mais Servan, vous vouliez rebondir là-dessus.
Moi je voulais rebondir par rapport justement à cette confiance, parce qu'on parle de la RSFP, effectivement, ça a été, c'est un tremplin pour beaucoup de nos jeunes qui ont été souvent en échec scolaire, enfin qui ont eu des difficultés pendant un temps au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'éducation nationale. Et donc qui arrivent là, quand ils arrivent sur le Galion, ils ont... quelques remords,
quelques réticences et quelques peurs
par rapport au monde du travail, aux qualifications, enfin tout ce qui est formation. Et donc la RSFP en soi a permis à des jeunes de pouvoir se remobiliser, de reprendre confiance, d'être valorisés dans le travail, comme disait Kim. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, elle a eu tellement de doutes en elle et la RSFP lui a permis de reprendre cette énergie et de pouvoir ensuite lui montrer que oui, elle pouvait aller plus loin et qu'elle pouvait aussi, même grâce à l'accompagnement des ETS et même des éducateurs de vie sociale, de pouvoir repartir derrière et d'avoir justement un accompagnement un peu plus soutenu dans la formation qualifiante. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais rebondir par rapport à ça. Oui.
Et je pense que même ces RSFP, donc effectivement, je suis d'accord avec toi, Servan, ça, c'est hyper valorisant pour les jeunes. Mais moi, je remets toujours les familles dans le lot où on vient leur pointer toujours les dysfonctionnements, les problèmes. Et là, c'est pareil. La dernière cérémonie des diplômes qui s'est passée en juillet, on voit la fierté des parents, en fait, de se dire « Waouh, mon enfant, il sait faire quelque chose, il a obtenu quelque chose. » c'est, même si c'est pas les RSFP, c'est pas un diplôme, c'est pas un CRP, c'est pas un bac,
c'est une attestation.
C'est une attestation de compétences et ça a une réelle valeur. C'est quelque chose qui peut être mis sur un CV. Donc c'est pour ça qu'on minimise pas en fait les RSFP, parce que c'est, je pense que c'est important vraiment pour tout le monde. Et puis même pour nous en fait, on se rend compte que voilà, on les amène en quelque part quoi.
Alors, on les minimise pas, certes, mais c'est aussi un tremplin. C'est-à-dire que, comme le disait Servan, une fois qu'ils ont leur RSFP, donc reconnaissance des savoir-faire professionnels, ça peut leur permettre de gagner en confiance, comme disait à très juste Servan, et d'aller plus loin, justement, d'engager quelque chose d'un petit peu plus qualifiant auprès des dispositifs de droit commun.
Oui, en fait. Tout à fait.
Les deux exemples que nous avons, Kim et Dorian, justement, dans leur parcours, ils sont d'abord passés par la RSFP.
Je me souviens très bien de la remise de la RSFP à Kim. Ouais.
Elle en a passé trois la première
et alors,
fois.
Alors je m'en souviens d'une. Elle était en pleurs, sa maman était en pleurs. C'était très émouvant.
Donc on vient de parler de Kim, on va revenir vers justement la suite de ton parcours. On aura le temps de t'interroger sur plein d'autres choses. Mais Dorian, tout à l'heure, un peu hors micro, quand on faisait les tests micro, tu as un peu expliqué plusieurs choses, donc je reviens vers toi. Toi, tu as toujours voulu faire ce que là tu fais, pourquoi tu es formé. Voilà, explique un peu comment, pareil, t'en es arrivé à être outé. Déjà, tu peux aussi peut-être réexpliquer, même si je l'ai fait dans l'introduction, tu en es où maintenant dans ton parcours professionnel?
Dis-nous ce que tu disais lorsqu'on a fait les tests micro. Présente-toi.
Je me représente.
Ouais.
Alors, Dorian Bonnet, 18 ans. Apprenti chez mes parents. Et première année, deuxième année là. De CAP agricole.
C'est ça, donc qu'est-ce que font tes parents? Tu disais que tu fais un CAP agricole.
Ma grand-mère, mon beau-grand-père et mon père font agriculteur. On a des vaches braques, une 90aine par là. On a 90 hectares. Et l'exploitation se situe à Bécus, pour ceux qui connaissent à peu près tous ces...
Et donc, tu as grandi, j'imagine, dans cet univers-là. Oui. Donc, tu as toujours voulu travailler dans la ferme.
Toujours. Ça me passionne depuis tout petit. C'est ce que je veux faire, c'est ce que... J'espère.
Et alors, quel est ton parcours, toi? Tu as été à l'école, au collège, au lycée?
Au collège.
Comment
j'avais
ça s'est passé?
J'avais fait primaire, collège, et du coup lycée, du coup CFA.
D'accord. Et donc, tu as été accompagné par le CESAD.
CESAD, hein? Au début, oui. Au début.
C'est ça.
Moi, je connais mal les acronymes. Que veut dire CESAD?
Alors, CESAD. Le CESAD, c'est le service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Donc, on dit essentiellement CESAD. Et c'est une proposition d'accompagnement pour aider les jeunes au domicile, chez eux, dans leur établissement scolaire, sur leur lieu de professionnalisation. En fait, c'est d'assurer le maintien de l'enfant ou du jeune dans son environnement et dans son milieu. On parle aujourd'hui de milieu écologique, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne va pas en institution, en IME, en IME pro, mais qui reste dans son milieu, son domicile, son école, son lycée, mais des professionnels vont aller sur place pour les accompagner. Voilà. Et ça a été le cas de Dorian. Donc, du coup, des professionnels du CESAD t'ont soutenu dans le cadre du collège, du lycée, à domicile. Alors, je ne sais pas sur quelle exactement problématique, mais peu importe. Mais en tout cas, ça a été ce cas-là.
C'est ça.
Ouais, justement, tu te souviens un peu, c'était quoi? C'était des réunions, c'était des discussions avec eux pour savoir qu'est-ce qui te plaisait, enfin...
C'était au lycée surtout?
Non, pas spécialement au lycée, plutôt au primaire.
Ah oui, dès la primaire.
Ouais.
Et donc, si on peut revenir un peu sur ce que tu fais donc actuellement, est-ce que tu as fait des stages?
Oui.
Et pas seulement chez tes parents ou...
Pas seulement chez mes parents, non.
Non. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, les stages? C'était intéressant pour...
Ouais, c'était intéressant.
Ouais, pourquoi?
Parce que pour voir autre chose, c'était différent.
Mais est-ce que t'as pas fait des stages que dans des fermes qui font des vaches aubrassiennes?
Non. J'avais fait un stage, je me rappelle plus où c'est exactement.
Au GAEC des Pivoines.
Voilà, au GAEC des Pivoines. Mmh. Voilà.
Et moi, je voulais savoir comment ça s'est passé, ton intégration au CFA. Comment ça s'est passé justement avec les professionnels du CESAD? C'est-à-dire que tu as été les voir, tu leur as parlé de ton projet. C'est eux qui t'ont aiguillé. Comment ça s'est passé?
Eh bien,
Si je peux me permettre, en fait, après, après le passage, après le premier suivi que tu as eu au CESAD, tu es venu au Galion.
Oui, oui.
Et c'est Servant, en fait, qui a mis ben, via après d'accord. les RSFP.
D'accord, voilà. D'accord.
Je te laisse.
Donc, tu as eu un petit passage au Galion.
Voilà, oui.
D'accord,
oui, oui.
À fait, oui. D'accord.
L'accompagnement CESAD s'est terminé quand tu étais en quatrième, me semble-t-il.
Oui, oui,
parce
c'est ça,
que
oui.
tu es arrivé au Galion, donc sur l'atelier Jardin Espace Vert à l'époque. Donc, tu étais encore scolarisé au collège quatrième, troisième. Tu as passé ton CFG. Et donc pendant cette période-là, effectivement, Dorian est arrivé avec un projet, enfin son projet, depuis toujours, c'était le projet de travailler comme agriculteur. Ça, c'était son souhait. Mais c'est vrai qu'il n'était pas encore très hésitant, il ne savait pas comment faire.
Il ne savait pas trop comment, ouais, c'est ça.
Il n'avait aussi pas complètement toute la confiance. Donc on a construit ce projet ensemble. Avec les équipes également, donc c'était donc déjà bah voilà essayer de revaloriser. Donc nous on a travaillé beaucoup les espaces verts, lui donner confiance, des activités. Et puis après il y a eu la période donc du travail qui était valorisé par la RSFP et en parallèle des stages, dont deux qu'il a pu faire dans un GAEC, le GAEC des Pivoines, dans lequel il a pu un peu plus expérimenter ses compétences, ses savoirs. Et les évaluer également, parce que voilà, il y a eu tout un projet avec un livret de stage derrière qui permettait d'évaluer, savoir où est-ce qu'il en était et s'il pouvait, donc sous la réserve du professionnel qui l'accueillait, s'il pouvait continuer de se former dans une formation qualifiante, le CAPA agricole. C'est ce qu'il a fait et à partir de là, ça a été la suite finalement. Et Dorian a intégré le
CAPA, CFA. Le CFA, du coup, voilà, le CFA, une première année réussie.
Première année, oui, réussie.
Super.
Maintenant la deuxième.
Bravo. Et maintenant la deuxième, bah, c'est super ça.
Et au passage, il a quand même eu son permis.
En plus.
Oui, oui. Il avait complètement oublié, oui. Oui.
Génial.
Donc tu pouvais déjà conduire les tracteurs.
Ah oui, bien sûr.
Ouais,
oui,
ça.
Oui.
Ah oui, donc ça a été plus facile. Hein.
Ouais,
oui.
Ouais.
C'était le code, la partie la plus compliquée.
Oui, c'est vrai.
Le
code, oui.
Voilà. Non, après voilà, moi Dorian, je le connais depuis qu'il est arrivé sur le Galion, mais après c'est vrai que je l'ai eu, il a fait son chemin et je survolais, on va dire, son projet parce que Dorian, il a saisi, là, il a pris ça vraiment à cœur, avec un papa aussi, Monsieur Bonnet, hein, qui est très présent aussi dans le parcours de Dorian, qui a toujours été là en disant ouais, mon fils veut faire ça, je vais l'accompagner. Donc c'est vrai que c'est aussi important de le dire. Et puis voilà, il faut une famille qui soutient. Et ensuite, bah, il a basculé maintenant depuis peu depuis le mois de juin sur la partie du CESAD de pro.
Hashtag.
C'est intéressant, du coup, on a deux profils différents entre Kim qui est arrivé en hésitation un peu, voilà, qui savait pas trop, et puis Dorian qui, lui, depuis qu'il était petit, savait où il voulait aller. C'est quoi, c'est dans la part un peu justement des gens que vous accompagnez, c'est un peu du 50-50 comme ça, ou il y a quand même plus de gens qui, voilà, je serais intéressé de savoir, c'est du 50-50 ?
Ah oui.
Oui, c'est, oui. Oui, c'est plutôt moitié-moitié, effectivement.
Quand les jeunes arrivent sur le Galion, ils ont beaucoup ont décidé, mais après entre la réalité, les formations, enfin ce qui se passe, et puis même leur expérience, hein, parce que quand ils commencent à arriver sur un atelier, c'est difficile hein, d'arriver comme ça sur la partie du Galion et de choisir un atelier sur lequel il faut se positionner, il faut travailler pendant une année, voire une année pédagogique, donc c'est pas évident. Et pourtant les jeunes quand ils s'investissent, ben, après il y a tout le travail qui est fait derrière, de compétences, de valorisation. Et effectivement on a des jeunes qui accrochent, qui adhèrent et qui sont partie prenante de ce projet-là et qui construisent à ce moment-là ce projet. Et oui, effectivement, Kim, je pense que quand elle est arrivée, comme elle disait, elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Et finalement, ça s'est fait.
Et justement, le cas de Kim, ça montre qu'il y a plusieurs étapes. Parce que Kim est arrivé, donc tu l'as dit toi-même, hein, Kim, tu venais d'années scolaires extrêmement difficiles, hein, avec des problématiques fortes au sein de des établissements que tu avais traversés. Oui. Donc, les premières étapes, c'est quoi ? C'est le suivi, on ne parle pas de suite projet, j'imagine, on ne parle pas de suite projet de formation, projet professionnel. Il y a d'abord un accompagnement psychologique, regagner en confiance, en estime de soi, c'est tout ce travail-là aussi, parce qu'on parle de professionnalisation, mais l'accompagnement, c'est tout ça aussi.
Effectivement, c'est vrai que nous, sur nos ateliers, on peut avoir jusqu'à 8 jeunes. Mais notre mission, c'est d'arriver à faire quand même de l'individuel dans le collectif. C'est là où c'est important de savoir prendre du temps pour chaque jeune, pour chaque projet, mais avec du collectif. C'est faisable, on y arrive, je pense. Et après, les jeunes, eux aussi, savent venir nous solliciter quand ils ont des besoins. Vous parliez tout à l'heure de psychologues. Voilà, on travaille en équipe pluridisciplinaire où, au besoin, ils peuvent venir nous solliciter. On peut ensuite solliciter la psychologue, la psychiatre, enfin, tous les professionnels médicaux, paramédicaux qui gravitent autour du Galion. Et c'est vrai que ça les aide à avancer et à gagner en confiance, parce que tout part de là en général.
Il y a gagner en confiance. Là, on parle de beaucoup de formation professionnelle. Le but aussi, c'est peut-être pas pour gagner de l'autonomie. Je ne sais pas s'il y a une part là-dessus. Est-ce que c'est des jeunes aussi qui doivent gagner en autonomie? Comment ça se passe au niveau de l'hébergement? Est-ce que vous les accompagnez aussi sur la suite?
Alors, complètement, effectivement. Comme disait Marie-Noël, il y a un travail de professionnalisation, certes, mais il y a aussi tout le travail à côté que font les éducateurs de vie sociale sur l'accompagnement à l'autonomie, sur les trajets, les transports, sur les...
Ça peut être, enfin, l'autonomie, ce qu'ils appellent l'autonomie de la vie quotidienne, ça va être capable de faire ses courses, de gérer un budget, de préparer un repas, savoir faire tourner une machine à laver, le programme, est-ce qu'on met au sèche-chaise, est-ce qu'on met pas.
Il y a des jeunes, ils ont des ateliers chaque semaine, il y a à peu près 3-4 créneaux comme ça, ciblés sur la semaine où les éducateurs accompagnent sur les AVQ.
Oui, c'est ça.
Les ateliers de la vie quotidienne.
Les AVQ.
Voilà, merci. Alors, à cette rentrée, on va mettre une petite tirelire là. À chaque acronyme, la personne devra mettre une pièce. Et l'été prochain, on part en vacances ensemble.
C'est ça. Ou alors, Anne, moi, durant l'année, j'irai piocher dans le pot.
Si tu triches. Alors là...
Et après, il faudra me donner la définition. Ça serait une petite,
c'est pour vous aider à les apprendre par cœur.
Mais justement, ces ateliers, je ne sais pas si Dorian ou Kim, vous avez participé à ces ateliers-là qui vous aide un peu les choses de la vie commune qu'on devrait d'ailleurs tous faire, ce que serait que quand on est jeune on ne sait pas gérer un budget, etc. Tu en as participé à ces ateliers là
Moi j'en avais fait qu'un seul d'atelier. Et j'avais fait la vie quotidienne. C'était comment entretenir ma chambre, comment faire à manger et gérer son budget.
Et toi Dorian?
Moi c'était pareil.
Entretenir sa chambre et gérer son budget. Donc là, tu as une chambre nickel.
Bien sûr. J'ai
nickel avant, mais... peux vous emmener mon fils ou pas?
Petite parenthèse, Dorian, très présent sur le Galion, donc les ateliers ne pouvaient pas, ils pouvaient pas y prétendre, mais enfin, ils pouvaient pas y participer. Donc du coup, voilà.
Et puis, en dehors du Galion, non, mais aussi au Galion et avec l'IME Pro, il y a toute la partie. Aussi socialisation, ça fait partie de l'autonomie, mais apprendre aussi à vivre en société avec les gens, il y a de ça aussi. Il me semble qu'il y a des activités sportives, des activités culturelles qui sont faites également.
Complètement, oui, tout à fait. Il y a le travail par exemple avec le Sillon Lozé, qui intégré quelques jeunes qui ont participé au niveau du service. Il y a d'autres groupes, d'autres activités, oui, bien sûr. Sur tous les temps hors atelier, il y a beaucoup d'accompagnements qui sont faits. Après, il y a aussi une éducatrice sportive qui est présente sur le Galion, qui accompagne aussi les jeunes à pouvoir travailler, on va dire, sur le collectif, sur comment se comporter en équipe, comment travailler avec un camarade. Donc c'est vrai que tous ces accompagnements-là, finalement, se regroupent et permettent à nos jeunes de pouvoir, ensuite s'insérer, on va dire, dans le monde professionnel.
Il y a les ateliers d'habileté sociale aussi. Est-ce que vous pouvez en parler ?
Alors, nous, on ne les gère pas du tout, du coup, vu qu'on est sur la partie plus professionnelle. C'est géré par les éducateurs de vie sociale. Et pareil, ça va être des thématiques bien précises qui vont permettre aux jeunes de comprendre un petit peu comment fonctionne quels sont les codes, comment fonctionne la vie en collectivité, comment avoir la bonne attitude en face, d'un patron, d'un responsable. C'est des petits ateliers. Alors, c'est des temps très courts. C'est une demi-heure. Les jeunes sont intégrés sur ces groupes d'habileté sociale en fonction de leur projet individuel d'accompagnement. C'est des thèmes qui sont travaillés sur toute l'année pédagogique, en fait.
Tout à fait. Je crois que, Kim, tu y avais participé, toi, à des ateliers d'habileté sociale.
Oui, j'en avais fait un.
T'en avais fait un? Donc, comment ça se passait?
J'en ai même fait deux. J'ai fait sur le code. Et j'en ai fait un sur... C'était
C'était pas la gestion des émotions.
Si. C'était la gestion des émotions.
Alors comment ça se passait?
On parle des émotions qu'on peut avoir, par exemple, dans la vie quotidienne, comme quand on travaille, qu'on peut avoir forcément peut-être une émotion triste, joyeuse.
De colère.
De colère, et qu'il faut savoir un peu les gérer, même si c'est un peu compliqué pour certains, ou quand il y a une forte émotion.
Donc on vous apprend tout ça?
Oui, oui, oui.
Ok, c'est important, ça te sert?
Oui.
C'est un tout, en fait?
Oui.
Mais on voit vraiment qu'il y a un accompagnement global, en fait, sur l'autonomie. Là, on parle beaucoup du PROUM, en fait. Il y a tout ce qui englobe pour pouvoir vivre, en fait, derrière, quoi.
Et en fait, la partie vie sociale, c'est un peu le même fonctionnement que sur les ateliers. Il y a du progressif, en fait. Il y a une petite villa qu'on appelle la Villa Coulagnier, où arrivent où sont les primo-arrivants. C'est une petite villa qui ressemble un peu à une petite maison où c'est un peu plus cocooning, voilà. Ensuite, il y a le gros internat où c'est du collectif, où il y a, voilà, on commence à travailler cette autonomie, tout ça. Il y a les studios qui sont toujours sur le site Galion, mais où le jeune va avoir un peu plus d'intimité, un peu, voilà, toujours avec cette autonomie en progression.
Petite kitchenette, voilà, pour pouvoir commencer vraiment à être autonome.
Et ensuite, il y a l'appartement qui est sur la Rode, si je ne me trompe pas, où vous avez été, toi, Kim, l'année dernière, et où il n'y a pas forcément une présence éducative au quotidien. Un éducateur est disponible, peut se rendre, voilà, aux besoins. Et voilà, en fait, c'est de la colocation où les jeunes apprennent à gérer leur appartement et le respect des uns et des autres. Donc, voilà.
Se faire la cuisine aussi.
Voilà, faire à manger, c'est faire leurs courses, leur repas, leur linge. Et ça leur permet, voilà, de s'insérer dans cette vie d'adulte.
Et de travailler plus facilement sur les transports aussi, parce que ces jeunes qui sont dans ces appartements, ils doivent gérer leur réveil le matin, gérer leur accompagnement pour aller en formation. Dorian était dans cet appartement.
Oui, oui. Ça, c'était bien. Ça a permis d'apprendre.
Et là, tu es en septembre à la rentrée. Là, tu es où? Tu es encore dans cet appartement?
Non.
Et tu es où?
Je
là?
Dors chez moi, du coup.
Là, tu es à la maison. Oui, oui, d'accord.
Vu que j'ai le permis maintenant.
Ah bah oui, forcément. Bah voilà. Oui. Autonomie. Ah bah voilà.
Justement, autonomie, donc voilà, globalement, si on fallait un peu résumer, l'IME Pro, donc voilà, ça favorise une vie plus autonome pour toutes et tous. Après, ils peuvent donc accéder à un apprentissage ou à un emploi dans le milieu ordinaire ou adapté, et même vous préparer une orientation. Mais toutes ces choses-là, justement, aussi là, la diplomation, Anne, c'est quelque chose qui... C'est une ambition forte du Clos de Nice, ça, de la formation, la diplomation, ça a toujours été une ambition, un fil conducteur pour vous.
C'est un fil conducteur dans la politique d'accompagnement du Clos du Nid, et c'est très clairement marqué dans notre projet associatif. Notre directeur dit souvent qu'il faut vraiment changer de paradigme par rapport à la vision qu'on a des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas les voir par rapport à ce qu'ils ne savent pas faire, par rapport à leur handicap, par rapport à leur incapacité parfois, mais tous ont la capacité de pouvoir faire quelque chose. Tous ont des capacités insoupçonnées. Et si on a vraiment de l'ambition et la volonté de les accompagner, si on a vraiment de l'ambition, on parvient à des résultats qui sont, qui sont étonnants. Chaque année, on l'a vu encore cette année au mois de juillet pour la remise des diplômes, chaque année on remet des bacs. On a eu remis des bacs avec mention certaines années. On remet des brevets des collèges, on remet des CAP, on remet des... donc des diplômes reconnus. Donc c'est vraiment une volonté forte que d'amener un maximum les personnes qu'on accompagne, alors que ce soit les jeunes au niveau de l'IME Pro, mais après également les personnes adultes au sein des ESAT, parce que tout ne s'arrête pas, au sein des ESAT aussi, on peut aller vers toujours plus de formation et de diplomation. On a pu le voir quand on a parlé de l'atelier à l'apiculture, par exemple, où la personne qui est venue s'est formée progressivement jusqu'à obtenir un CAP, on va dire, au fur et à mesure, une fois, je veux dire, dans le milieu du travail. Donc voilà, donc il y a vraiment cette volonté forte que de voir les personnes sous l'angle de leur capacité et du coup de les amener au maximum de cette capacité-là.
Et tout à l'heure, tu en parlais un peu, mais ça doit faire plaisir, justement, tous ces mois de juillet, de voir la fierté autant dans le regard des diplômés que des
familles. Et c'est une vraie fête. Hein. Ouais. La remise des diplômes, Marie-Noël le disait, c'est vraiment une vraie fête. C'est-à-dire, les parents sont là, il y a des familles, il y a tous les partenaires, les entreprises, les centres de formation. On est très nombreux et c'est une vraie fête avec vraiment le côté institutionnel, c'est-à-dire que c'est le président ou le directeur général qui remettre le diplôme, on fait la photo, il y a la remise officielle et ça acte vraiment le travail fourni sur une année et là où ils en sont arrivés, qui est souvent quelque chose d'énorme.
Bon, on sera là pour votre fête, Dorian et Kim. Kim, du coup, t'en as déjà, toi c'est bon.
Alors Kim, il faut qu'elle nous invite à sa crémaillère, parce que si j'ai bien compris, tu es en train de rechercher un appartement.
Oui.
Ah, chouette.
Voilà.
Où ça ?
Amande.
Amande. Bon, peut-être oui. Que t'es à la radio, peut-être que tu peux lancer un appel. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va dire « Ah, bah j'en ai un, moi, un appartement. »
Oui, je fais des recherches et peut-être, je pense que je vais bientôt en avoir un. Je l'espère, en tout cas.
Bah, ça serait cool.
Donc, alors, ton projet, c'est quoi, là ? À aujourd'hui, c'est quoi ? Donc, tu vas trouver un appartement, t'installer sur Mende et rechercher activement...
Un travail sur Mende.
Un travail sur Mende. Donc, ça, maintenant que tu as ton diplôme, que tu as réalisé... Tu as réalisé des stages, hein, cette année, me semble-t-il, à l'hôpital.
Oui, j'en ai fait un, oui, à l'hôpital.
À l'hôpital de Marvejols ?
Oui.
Ça s'est bien passé ?
Oui.
C'était chouette ?
Oui.
Et tu faisais quoi, là-bas ? C'était quoi, tes missions ?
Du coup, ben, c'était de l'entretien des locaux et aussi je faisais un peu, pas de la blanchisserie, mais tout ce qui était du linge sale, je le ramenais, on va dire, en blanchisserie pour qu'il soit lavé. Et je faisais, le service des repas aussi.
Ouais, donc, tu as vu plusieurs choses différentes.
Oui,
quoi.
Parce que je faisais du soir comme je faisais du matin en aussi. Plus. Donc, j'ai vu un peu de tout, quoi.
Ça doit, tu dois te lever tôt dans le matin ?
Oui.
À quelle heure ?
Quand je commençais le matin, c'était... À 7 heures, je commençais.
Ah oui, donc le réveil, ouais, il peut... Oui.
Donc voilà, donc maintenant, tu as fait tes stages. Et donc maintenant, ça y est, tu te lances, tu recherches un emploi. Hein. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous aidez aussi à tout ce qui est recherche d'emploi, les lettres de motivation, les CV. Alors, comment ça se passe, cette partie-là, au niveau de l'accompagnement ?
Eh bien, on a des temps... on a des temps, des demi-journées où on n'a pas nos groupes ateliers. Et c'est souvent des temps qu'on dédie aux jeunes qui ont besoin de cet accompagnement spécifique, à la carte, individuelle. Et après, on leur apprend aussi à faire de la recherche d'emploi. Les premiers temps, on va ensemble sur l'ordinateur, France Travail, voilà. Et après, les jeunes commencent à être un peu plus autonomes et c'est vraiment un travail de partenariat avec eux où ils vont venir nous envoyer par mail l'offre en nous disant... Des fois, ils ont juste besoin qu'on leur confirme « Tu crois que je peux postuler ou pas ?» Et ensuite, sur ces mêmes temps, on va venir mettre à jour leur CV, mettre en forme une lettre de motivation. J'ai été jusqu'à l'accompagner, poser des CV et des lettres en même propre chez des entreprises mandoises, en fait.
Après, il y a aussi, au niveau du CFA, CFPPA de Marvejols, il y a les ateliers TRS, Technique et Recherche de Stage.
Qui sont financés par le PRITH.
Qui sont financés par le PRITH.
Allez, c'est pas créé. Le programme régional d'accompagnement à l'insertion des personnes en situation de handicap. On n'est pas tout à fait sur les, mais ça veut dire ça. Mais voilà, ça veut dire ça.
Effectivement. Du coup, voilà, mené avec le collègue TS, plus Jackie Petit du centre de formation. Alors, c'est des ateliers sur lesquels, d'ailleurs, Kim et Dorian ont participé. Mmh, oui. Je pense que vous pouvez nous expliquer.
Bah, tiens, Dorian, ça fait longtemps qu'on t'a pas écouté.
Comment ça s'est passé, ces ateliers ?
Eh bien, très bien, très bien. Ça...
Alors, t'as appris quoi? Qu'est-ce que tu as fait?
Après, on a regardé ça, à faire des CV, des mails.
Oui, voilà, c'est ça, oui. Des mails, voilà, c'est ça, oui. Mmh. Oui, oui.
À rédiger une lettre de motivation.
Je crois que vous apprenez aussi à vous présenter.
Aussi, oui, oui.
À passer un entretien.
On s'apprenait, oui, oui.
Est-ce qu'au CAP, il y a des épreuves orales?
Oui, c'est ce qu'on faisait.
Et donc, c'est quoi globalement les différentes étapes? C'est se présenter, l'entreprise dont on a travaillé, tu peux un peu expliquer?
Oui, voilà, l'année dernière, du coup, j'en ai passé trois. Mmh. J'ai validé les trois, du coup. Et la dernière, c'était fin juin. Et du coup, il fallait que je parle de comment placer une clôture. Et du coup, faut se présenter, faut montrer la diapo, et si après, faut bien vraiment que ça soit bien détaillé, parce que après, si c'est pas bien détaillé, après, faut le repasser. Et voilà.
Et donc le diaporama, c'est toi qui l'as fait aussi?
Oui.
Ah, c'est beaucoup de travail quand même.
Oui.
Oui, parce que l'oral, c'est pas facile. Hein.
Mmh. Bah, avec tous les élèves, il y a un peu de stress, surtout le premier que j'ai passé, c'était un peu stressé. Mmh.
Forcément, c'est toujours stressant un oral. Oui. Donc,
Mais après le deuxième, c'était sur la réparation et l'entretien, et pareil. Mais là, c'était deux diapos, donc il fallait que j'en fasse deux. Mais ça va, c'était...
Ça s'est bien passé, du coup.
Oui, ça s'était bien passé.
Bah, tu étais en stress au début, maintenant tu passes à la radio, tu vois. Donc c'est bon, c'est que tu es à l'aise à l'oral. C'est super bon. Ouais. Et je vais rester avec toi, Dorian, là. Donc on est en septembre, la deuxième année, là, se lance. C'est quoi la suite? C'est encore un an de formation à la ferme aussi, avec tes parents. Et c'est quoi après que tu voudrais, une fois que tu auras le diplôme, c'est quoi ce que tu aimerais faire après?
C'est une question aussi que je pose. Je me pose souvent la question, est-ce que je fais le BPROA?
B, tu peux répéter?
Le BPROA. Le BAP.
Ah, d'accord. Alors, voilà. Le BAP. Brevet professionnel agricole.
BPROA.
Brevet d'aptitude professionnelle en agriculture.
Il y a le aptitude à ne pas, pas oublier. Voilà. Ah, mais donc c'est encore au-dessus.
Oui. Ouais. Mais le BPROA, après, ça permet d'être. D'avoir beaucoup plus d'aide, alors que le CAP, il n'y a pas beaucoup d'aide, tout ça, faut vraiment...
D'aide, tu veux dire, quand tu seras installé?
Oui, voilà.
Oui.
Tu vois vraiment à long terme maintenant, mais ça c'est super ça. Mm. Donc effectivement, tu vois déjà ton installation, hein, voilà. Donc pour avoir beaucoup plus d'aide financière pour ton installation, il vaut mieux avoir un diplôme un peu plus élevé.
Oui, voilà. Mais même avec le CAP, on peut s'installer, mais il n'y a pas beaucoup d'aide.
Et du coup, tu te sens, là, si tu vis, c'est que tu te sens capable. Tu te dis, là, avec le travail que je fais avec mes parents, le travail aussi en CAP, tu vas être capable de faire tout ça, quoi.
Le BPROA, pour l'instant, c'est à réfléchir parce que mon père, il a des problèmes de dos. Donc, du coup, c'est pour ça que je sais pas. Il faut que je réfléchisse parce que si je fais le BPROA, il me semble qu'il faut changer de patron. Et du coup, je serai moins souvent à la ferme, du coup, chez mes parents. Donc, du coup, là... Ouais, donc ça serait une question.
Faut que ça se réfléchisse encore.
Ah oui, il faut que ça réfléchisse encore.
Bon, écoute, tu as une année.
Oui, voilà. J'ai encore une année. J'ai le temps de poser des questions, tout ça. Donc,
De réfléchir, de voir ce que tu veux toi aussi.
Oui. Moi, je veux le faire, mais c'est juste que...
Mais le projet, c'est de récupérer...
De récupérer l'exploitation de ma grand-mère.
Ah ouais, donc tu as un projet terminé, à long terme, qui est déjà préparé dans ta tête, ouais.
Ah oui.
Et elle est où cette ferme-là? C'est la même ferme où tu travailles actuellement?
Oui, c'est ça. Si tu es juste à côté, oui.
Donc toi, tu t'installerais sur la ferme de ta grand-mère?
C'est ça. Et ma sœur, du coup, pareil, elle veut faire pareil ce métier. Pareil. Pareil.
D'accord. Bon, mais là, il y a un GAEC, ça sent le GAEC en vue, là. Si, hein, je crois bien. Bon, super.
Oui, je pense qu'on a fait le tour. Anne, je sais pas si tu veux qu'on rajoute quelque chose, mais ça fait déjà bientôt 50 minutes qu'on discute.
Alors moi, tout à l'heure, je veux juste rebondir sur Kim a fait son stage à l'hôpital et justement, je voulais pointer le fait que sur Marvejol, le centre hospitalier et la communauté de communes ont signé des conventions avec l'IME pour justement l'accueil de jeunes en situation de handicap pour les accueillir sur des stages, des temps de formation, voilà. Et voilà, et c'est vachement important, et c'est aussi un petit appel aux entreprises, de dire que voilà, on fait un appel à toutes les entreprises qui voudraient et qui seraient, qui pourraient accueillir des personnes et des jeunes de l'IM Pro, voilà.
Et moi, je voulais justement rajouter par rapport à ça qu'effectivement, notre mission aussi en tant qu'éducateur technique spécialisé, c'est de créer du réseau, de pouvoir rencontrer des partenaires. Et justement, sur le bassin de Marvejols, on en a beaucoup. Pas assez, il nous en faut toujours plus. Mais ça permet voilà, de pouvoir accompagner les jeunes, de trouver des lieux de stage, de trouver des partenaires pour pouvoir évaluer, pour pouvoir accompagner nos jeunes. Et ça, c'est très important. On a encore un jeune qui, normalement, devrait signer un contrat d'apprentissage. Mais oui, c'est important de dire qu'on a des équipes qui nous suivent, qui nous soutiennent, et qui soutiennent les jeunes au Galion. Donc c'est important de dire.
Ça peut être effectivement le mot de la fin, un appel à, pas à candidature, mais en tout cas voilà, à réseauter encore plus et d'avoir plus d'entreprises et de structures qui sont prêtes à accompagner tous ces dispositifs pour accompagner ces jeunes-là. Ouais.
Voilà, et puis écoutez, bon courage pour cette nouvelle année qui attaque, Dorian et Kim, et puis vous viendrez nous dire, toi Kim, où tu en es, et puis un petit appel à Kim aussi, je cherche un emploi, vas-y, dis-le, c'est le moment.
Et un appart.
et un appart, voilà, je cherche un emploi et un appart.
Du coup, je cherche un travail et un appartement.
Et je cherche un travail, voilà, et que tu aies pleine de motivation.
Oui.
Voilà. Ben,
et super. De compétences.
Exactement. Ouais. Voilà. Et toi, Dorian, tu viendras nous dire, tu viendras fêter ici à la radio ton BTS.
Allez. Dans son CAP.
On coupera là.
Oui.
Tu viendras fêter à la radio ton CAP. Allez, super.
Eh bien, écoutez, Kim, Dorian, Servant, Marie-Noël et puis Anne, merci beaucoup d'avoir été présents. Et puis merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir écouté Hashtag, l'émission de 48FM en partenariat avec le Clos du Nid qui donne la parole aux personnes en situation de handicap. Merci à vous et bonne écoute.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Hashtag. Un autre regard sur le handicap.